Alors, eh bien, on va continuer ensemble les miracles hein, du prophète Élie. Donc, si vous voulez prendre 1 roi 18, et donc on va lire à partir du verset 18. Élie répondit. Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux. Qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant les pardons qu'ils avaient faits. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, Criez à haute voix! Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Alors, eh bien, on prend donc la suite des miracles d'Élie. Et Achab était très en colère, hein, roi d'Israël, très en colère contre Élie, puisqu'Élie a dit qu'il n'y aurait pas de pluie qui tomberait sinon à sa parole. Et voilà que la sécheresse dure 3 années. Imaginez ça, 3 années où il ne pleut pas. Les cultures devaient être dans un état, hein, la terre devait être dure. Hein, mais c'était le jugement de Dieu sur ce peuple d'Israël qui justement s'était détourné pour aller vers les Baals, vers les faux dieux. Akab est donc très en colère contre Élie. Et alors, eh bien, Élie, soudain, eh bien, poussé par l'Éternel, décide de le mettre au défi. Et dans cette histoire, on peut voir l'exemple d'Élie comme étant l'exemple du chrétien qui vit dans un monde impie. On retrouve une image du chrétien au travers d'Élie. Alors bien sûr, les mœurs, les coutumes ont bien changé, hein. On n'est plus sous ce temps-là, hein. Mais il y a quand même des grandes vérités qui restent toujours les mêmes et qui sont toujours valables pour nous. C'est celles que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Comme Élie l'a fait et demandé de le faire. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et dans ce verset, on voit ce que Dieu attend de chaque homme. C'est finalement qui se détermine pour ou contre lui, d'une manière qui soit bien claire, franche. Hein. Dieu veut que l'homme soit entier dans toutes ses décisions. Dans le livre de l'Apocalypse, tout à la fin, on lit ce verset. « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé, mais se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. » Et là, on a deux voies, deux directions totalement opposées. Hein. L'un, dans son injustice, eh bien, est encouragé, hein. Puisqu'il a choisi d'être injuste, puisqu'il veut l'injustice, alors eh bien vas-y, persévère, continue, va jusqu'au bout. Et puis l'autre, dans la justice, est encouragé à persévérer dans la sainteté. Deux voies, deux directions. Mais notre texte ici, il nous parle d'une troisième possibilité. Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Et là on a ici une position intermédiaire, où l'homme n'est pas totalement impliqué dans l'injustice, mais il n'est pas totalement dans l'injustice ou pas totalement impliqué dans la justice. Il y a ici une position entre les deux. Alors Élie leur dit, choisissez, choisissez. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors allez après lui. Et la réaction du peuple, elle est très significative. Quelle est sa réaction ? Le peuple ne répondit pas. Rien. Rien. C'est le silence. On ne se prononce pas, on ne s'engage pas. En fait, ils étaient partagés. Hein. Bien sûr, l'Éternel est Dieu. Mais bon, Baal, ma foi, c'est pas mal aussi. Et on peut dire qu'on a une position caractéristique du chrétien, hein, parfois, hein, avec un cœur partagé. Il n'est plus de ce monde, il n'appartient plus au monde, il le sait. Mais en même temps, l'enfant de Dieu peut toujours garder un pied dans le monde et voilà, être partagé. Il n'est pas entier dans ses choix, dans ses décisions. Est-ce que ce n'est pas là une attitude hein, qui nous décrit ? Parfois, souvent ou trop souvent. Regardez ce que Dieu a dit à l'église de Laodicée, vous connaissez hein, dans l'Apocalypse. Est-ce que c'est pas exactement notre texte ? Jésus a dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » On retrouve ici la même chose. Pas contre, hein, mais pas entièrement pour. Entre les deux, ni froid ni bouillant. C'est l'idée de clocher là des deux côtés, hein, et pas savoir bien de quel côté on va pencher. Élie a réuni tous les prophètes de Baal et le peuple, et il leur a dit maintenant, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Vous devez faire un choix. Et le choix, c'est quelque chose que nous faisons des centaines de fois par jour. On n'arrête pas de faire des choix. La vie n'est faite que de choix. On se lève le matin. On commence par un choix, hein. On fait le choix de se lever, on pourrait faire le choix de rester dormir. Hein. On fait le choix de s'habiller, de se laver, de comment on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va manger. Et on n'arrête pas. Et c'est des petits choix jusqu'à des grands choix. La vie est faite de choix. C'est une succession de choix. Et ce que Dieu veut, c'est que le plus tôt possible, nous fassions les bons choix. À chaque fois, nous fassions les bons choix. Et qu'on soit dans une dynamique finalement où on enchaîne les bons choix. Et sans cesse, eh bien, on prenne les bons choix dans nos journées. L'obéissance pousse à l'obéissance. Et on avance comme ça. Maintenant, peut-être que vous trouvez que l'obéissance fait parfois défaut chez vous. J'ai lu dernièrement une méditation qui était édifiante, hein. Le titre était quelque chose comme Dieu n'est pas déçu de vous. Dieu n'est pas déçu de vous. Et peut-être que devant ces paroles, devant ce texte, hein, l'importance d'être bouillant pour le Seigneur, eh bien, vous vous trouvez en faillite. Et puis, vous devez avouer que, ben, à certains égards, vous êtes plutôt tiède, comme assis entre deux chaises. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas déçu de vous. Et c'est vrai que parfois, on se fait une idée, hein, en se disant que Dieu attend plus de nous, Dieu attend plus de zèle, il attend plus d'obéissance, plus de fidélité. Et on se sent indigne finalement du grand Dieu auquel nous appartenons, mais Dieu n'est pas déçu. Or bien sûr, Dieu veut une transformation, il veut opérer quelque chose, il veut nous changer, mais il n'est pas déçu de nous. Il n'est jamais déçu de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sera jamais déçu. Il nous connaît parfaitement. Il n'attend rien du vieil homme. Il n'attend rien de ce que nous sommes. Dans l'évangile de Jean, il est dit, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Il le savait, il nous connaît. Il les connaissait. Il sait de quoi nous sommes faits, il n'est pas déçu de nous. Non, parce qu'il sait déjà à l'avance les choix que nous allons faire, les mauvais choix que nous allons faire. Il nous connaît tous. Alors, eh bien, il s'attend pas à ce qu'on fasse toujours les bons choix et que, ah, on atteigne une sainteté parfaite. Il ne s'y attend pas, il le sait. En fait, il ne s'y attend pas. Parce qu'on en est incapable. Nous en sommes incapables. Cette puissance du mal qui est en nous, la chair, nous en rend complètement incapables. Par contre, si Dieu n'est pas déçu de nous, nous sommes souvent déçus de nous. Mais ça, c'est un bienfait. C'est une force. Et c'est précisément ce que Dieu veut que nous expérimentions, la déception de nous-mêmes. Parce que le Seigneur veut que nous cessions de placer notre confiance en nous-mêmes et que nous la placions en lui seul. Et plus on sera déçu de nous, de nous-mêmes, plus, eh bien, on cessera de placer notre confiance en nous-mêmes. Et c'est ça qui est salutaire. C'est là qu'il y a une délivrance, et la délivrance. C'est dans finalement un transfert de la confiance. On ne place plus sa confiance en soi, on la place dans le Seigneur. Parce qu'on sait que de toute façon, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors s'il est bien de prendre une décision ferme, dire je veux suivre Jésus, hein, j'aimerais vous y encourager ce matin, mais pas en puisant vous-même, hein, dans votre volonté, en disant « mais je veux », mais en vous appuyant sur le Seigneur, en vous appuyant sur lui. Parce que ce qui permet de persévérer dans une succession de bons choix et de bonnes décisions, de bonnes directions, ce n'est pas uniquement la volonté. Paul le disait, hein, « j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien ». Donc même avec une bonne volonté ce matin, vous n'aurez pas le pouvoir cette semaine de persévérer. Il faut la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce. La grâce. C'est merveilleux la grâce. C'est merveilleux la grâce. Et donc, on a besoin de demander, Seigneur, aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi, chaque jour, chaque journée, Seigneur, aide-moi. Fais-le en moi aujourd'hui. Aide-moi à ne pas être partagé. Aide-moi à te choisir. Aide-moi à être entier pour toi. Et si vous avez peut-être négligé de passer du temps avec le Seigneur un petit peu chaque jour, eh bien, je vous encourage à revenir au Seigneur et à repasser un moment vraiment, lui avec vous, vous avec lui. Et voilà, présenter la journée et dire, Seigneur, aide-moi dans cette journée à bien faire. Donne-moi ta force, ta grâce. Et c'est sa grâce qui va vous amener à faire les bons choix et Dieu en sera glorifié parce qu'il n'y aura rien de vous, rien de nous. Ça, c'est ce que Dieu veut. Verset 22. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. » Ensuite, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit faire des bons choix, mais c'est quelqu'un aussi qui peut vivre dans une certaine solitude. Élie était seul face à 450 prophètes qui étaient farouchement opposés à l'Éternel, le vrai Dieu. Et le sentiment de solitude, c'est quand même bien réel. Si on est enfant de Dieu, alors on vit, il y a une hostilité à la foi, une hostilité à l'Évangile, hein, une hostilité au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est un nom qui dérange. Tout comme le nom de l'Éternel dérangeait les prophètes de Baal. Et la petite minorité de chrétiens nés de nouveau, face à ce vaste monde, large, hein, qui n'a pas d'égard pour Jésus, qui n'a pas d'égard pour la parole de Dieu, bien c'est similaire à ce contraste entre Élie face à tous ces prophètes qui étaient devant lui. Et pendant que nous, on prêche la repentance, la foi, l'obéissance à Dieu, la bonne conduite, hein, ils sont nombreux les prophètes hein, de ce monde qui prêchent le contraire, hein, qui n'arrêtent pas de prêcher le contraire. Le monde prêche le péché, la liberté de pécher, le droit de pécher. On était fiers de Kezia cette semaine parce qu'elle est allée à un anniversaire à côté. Et les enfants s'ennuyaient et ils ont voulu regarder un film. Et évidemment, quel film ressort hein? Eh bien, c'est Harry Potter. Et à ce moment-là, Kezia dit, mais c'est quoi ça? Alors, eh bien, on lui dit, oh non, on ne va pas regarder ça. Papa et maman n'aiment pas ça. Elle est rentrée, elle nous a raconté, on était contents. Hein? Merci Seigneur. Hein? Mais finalement, ça ne dérange que les chrétiens nés de nouveau, hein? Qui savent qu'il y a un problème, qu'on est en train de faire passer quelque chose de mauvais là. Hein? Il n'y a que les chrétiens qui ça les dérange. Hein? Ça, c'est un exemple récent, mais on pourrait en citer beaucoup. Hein? Les médias sont remplis de prophètes de mensonges, hein? Plein de prophètes. Et on pourrait dire chaque outil de propagande, hein, de marketing, de publicité, c'est la voix des faux prophètes. Il parle au travers de ça. La Bible prêche la fidélité conjugale. Le monde prêche la liberté sexuelle. Et là, mais c'est incroyable, hein? Je ne suis pas vieux. Mais je regarde 20-25 ans en arrière, hein, quand j'étais adolescent. Je me dis, mais c'est fou, quoi. Le changement qu'il y a eu en 20-25 ans commence à... Partie de travers, hein. Vous parlez avec les jeunes là, hein. Et c'est pas possible. La Bible prêche une relation avec l'Éternel seul, le vrai Dieu, la vérité. Le monde prêche un mélange de philosophie, de culture, de religion. Le monde pousse vers un syncrétisme, hein. Tout ensemble là. La Bible prêche l'intégrité, la droiture. le monde prêche qu'il faut d'abord penser à soi-même. Il faut regarder son intérêt. Hein? D'accord, l'intégrité, d'accord, mais bon, finalement, est-ce que ça vous profite? Il n'y a pas que le noir et le blanc, hein? Il y a toute une panoplie de gris hein, qui est aussi intéressante. Hein? Et face à tout ça, eh bien, on peut se sentir seul. On est seul. Un peu comme Élie, parmi les derniers prophètes, hein, à tenir bon pour le Seigneur. Maintenant qu'on se rassure, hein, si on est certes un petit nombre, c'est vrai, on n'est pas tout seul. Hein, parce que des fois, on se dit, ah, mais je suis tout seul. Hein, on est tout seul. Il n'y a que cette église. Hein. Non, 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 non. Dieu a des enfants de Dieu partout. Dieu a des hommes fidèles partout. Il y en a, hein. Il s'était réservé 7000 hommes, on voit un petit peu plus loin dans les Écritures. Hein. Donc à l'époque, hein, là, hein, Élie dit « Je suis tout seul ». Et Dieu va lui dire « Mais je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal ». Eh bien c'est pareil, hein. Il y a des chrétiens. Mais bon, ils existent. Mais la question que l'on peut se poser est celle-ci. Comment faire face à cette multitude qui ne place pas sa confiance en Jésus? Toutes ces personnes qui sont parfois hostile d'une manière ouverte à l'Évangile. Alors Élie nous donne la réponse. Que va-t-il faire? Il va les laisser démontrer que leur Dieu, c'est le vrai Dieu. Il va leur dire, allez-y, allez-y. Il va les laisser s'enfoncer dans leur voie, affirmant que c'est le vrai Dieu, qu'ils sont dans la bonne voie. Et c'est là où on assiste, on l'a lu, hein, à ce spectacle, on a envie de dire ce cirque, des prophètes de Baal. Ils vont invoquer, ils vont sauter, ils vont s'agiter hein, depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous ». Résultat, il n'y eut ni voix ni réponse. Ensuite, ils remettent ça de plus belle, en disant « On n'est pas allé assez loin, on va se faire des incisions, des sacrifices hein. ». Et le sang coulait sur leur corps. Ils se mettent à prophétiser, verset 29. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et si le monde, avec tous ses baals, hein, ses idoles, ses passions, veut s'opposer à l'Éternel, le vrai Dieu, il faut les laisser s'exprimer. Le monde n'arrête pas de dire que le bonheur, c'est d'être riche au soleil sous les cocotiers. En tout cas, c'est la Française des Jeux qui nous passe le message depuis 30 ans hein, à la télé. C'est toujours le même message. Ding, ding. Le bonheur, c'est de rouler dans cette voiture. Tous les fabricants d'automobiles vous le diront. Hein. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être dans la possession de son dernier écran plasma. C'est le bonheur. C'est dans l'assouvissement de ses désirs. Le bonheur, c'est d'avoir un corps de rêve. C'est le bonheur. Le bonheur, c'est d'avoir toute la connaissance à portée de clic. Le bonheur, c'est d'être libre, de voyager. Le bonheur, c'est de rencontrer l'âme sœur. Le bonheur, c'est de faire ce que l'on aime dans la vie. Le bonheur est d'arriver à un équilibre parfait avec soi-même. Voilà. En harmonie avec le tout. Le bonheur, c'est la santé physique. C'est vrai. Je me sens bien cette semaine, mais... C'est la santé physique, morale, psychologique. Alors là, tout va bien. Il faut les laisser s'exprimer. Allez-y. Qu'ils montrent que leurs dieux sont des vrais dieux. Des dieux qui répondent, qui rassasient, qui comblent l'âme. La réalité... C'est qu'après un moment, il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il n'y a pas de voix, c'est le silence. Parce que ces dieux n'en sont pas. On voit toujours le beau côté de la chose, hein, mais l'envers du décor, eh bien, c'est pas ça du tout. L'Ecclésiaste l'a dit en son temps, hein, il a exploré les pistes qui pouvaient le mener vers le bonheur, toutes les pistes. Il a cherché dans la science, hein, étudiant, recherchant l'exactitude des choses, hein, mais bon, il n'a pas été rassasié. Il a cherché dans la philosophie, il a accueilli les penseurs, les raisonneurs dans son royaume. Non, c'était pas ça. Il a cherché dans les plaisirs, dans la boisson, dans la gaieté. Il invitait des danseurs, des danseuses, des musiciens. Mais au bout d'un moment, il s'est lassé. Il a dit non, c'est pas ça. Il a cherché vers le matérialisme. Il a construit des ouvrages magnifiques, hein, des aqueducs, hein, des piscines, des palais. Mais finalement, il a dit c'est vanité. Tout finit par se détériorer. Alors il a cherché dans le jardinage, les vignes, les plantes, les fleurs rares. Mais un jour, la fleur fane et elle sèche. Il a cherché dans le fait de gouverner, d'avoir des serviteurs en grand nombre. Il a cherché dans l'élevage des animaux, les troupeaux, le bétail. Il a amassé des richesses à n'en plus finir. Mais rien de tout cela n'a donné une réponse à sa quête. Il s'est dit que peut-être il fallait qu'il pratique une religion formelle, rituelle. Donc voilà, il a fait des rites, hein, mais sa conclusion est celle-ci. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Hein, parce que l'homme est bien limité même quand il se met des règles. Là aussi, c'est une vanité. Il a essayé le stoïcisme. Non. Une réputation. Peut-être dans la réputation, je serai heureux. Mais bon, finalement, la réputation passe. Et sa conclusion, vous la connaissez, vanité des vanités, tout est vanité. Et à la fin de tout cela, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il n'y a rien à faire. Si l'homme ne s'est pas épuisé dans sa quête, s'il ne s'est pas suffisamment accroché à ses fausses idoles, à ces balles modernes, actuelles, il n'est pas prêt à entendre autre chose. Il n'est pas encore prêt. Il faut d'abord que lui-même expérimente qu'il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il faut qu'il aille s'enfoncer dans tout ça. Tant qu'il croit qu'il y a quelque chose, hein, c'est vain. C'est vain. Mais une fois qu'il est allé s'épuiser et dit non, vanité, tout ça c'est vanité. Alors là, il peut se passer quelque chose. Et Élie, eh bien, a laissé. Il a dit, allez-y, manifestez. Et il n'y a rien eu. Alors, eh bien, verset 30, une fois que c'était fini, Élie dit alors à tout le peuple, maintenant, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça y est, ils étaient prêts là, ils étaient mûrs. Pour entendre, pour croire, pour comprendre. Alors Élie lance son invitation. Hein. Finalement, c'est une invitation à découvrir le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur. Hein. Élie va donc préparer son autel. Il va y placer son taureau découpé. Et puis, il va demander qu'on y verse des cruches d'eau, 4 cruches d'eau. Et pas qu'une fois, une deuxième fois, une troisième fois. En sorte que le sacrifice, l'autel, les pierres, le bois, tout soit trempé, détrempé. Et lorsque Dieu choisit de parler à quelqu'un, alors Dieu veut lui parler d'une manière qui est sans équivoque, sans ambiguïté, sans mise en doute, que c'est bien lui qui parle. Il voulait que ce soit clair. Et avec cet autel détrempé, on pouvait pas dire ah ben il a triché, il a laissé un peu de feu en dessous. Non, là c'est soit c'est Dieu, soit c'est rien du tout quoi. Hein. C'est pas possible autrement. Et quand le Seigneur veut parler à quelqu'un, alors il le fait d'une manière hein, où là on peut pas dire non c'était pas lui. On dit oui c'est lui. Oh oui, je le reconnais. Moi je me souviens la première fois que Dieu m'a parlé. Hein, il y a 17 ans, quand j'ai lu ce verset, eh bien, j'ai dit, Dieu existe. Instantanément, Dieu existe. Et là, mes oreilles étaient attentives. Quand Dieu nous parle, alors on sait que Dieu nous parle. C'est une certitude. Et de la même manière, Dieu voulait parler à ce peuple et qu'il n'y ait aucun doute. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Et là, pour finir, on a encore une image de ce qu'un vrai enfant de Dieu doit désirer. Élie va dire trois choses, hein, c'est sa prière. Il dit « Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. » A-t-on ce désir, cette volonté de dire que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu? Élie voulait proclamer toute la divinité de son Seigneur et Maître. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Et il était face à des milliers de personnes, dont quelques centaines étaient vraiment hostiles. Hein, mais il veut qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Sachez-le. Et vous savez, nous sommes, et moi également, on est souvent bien timorés pour parler hein, et dire « L'Éternel est le vrai Dieu ». J'ai entendu un témoignage à la pastorale, là, c'est Kim Fox, donc, qui est pasteur à Rouen, et qui nous partageait une de ses expériences. C'est qu'il il a eu l'occasion d'aller visiter un prisonnier, donc dans une prison, et donc il y est allé une première fois, il y est allé une seconde fois, et avant de rencontrer la personne, il était d'abord dans une pièce où il était avec peut-être une dizaine de personnes, et toutes ces personnes venaient voir quelqu'un, mais ils étaient dans l'attente qu'on prépare les prisonniers, qu'on les sorte des cellules, qu'on les amène dans les box, etc. Donc, ils étaient là dans une pièce fermée et le silence, un peu comme dans une salle d'attente où on regarde le plafond, on ne sait pas trop. Et donc, voilà, il se passait plusieurs minutes, longues minutes comme ça. Et la deuxième fois, il s'est dit, mais c'est une occasion formidable de témoigner, ça, ils ne peuvent pas s'échapper. Et, pas facile, hein? Et il a dû demander, Seigneur, oh, aie pitié de moi. Donne-moi la force, là. Regarde comme je tremble pour parler et dire tu es le vrai Dieu. C'est fou, hein? On a du mal à dire que Dieu est le vrai Dieu. On est muet. C'est terrible. On a l'antidote hein, qui donne la vie et les gens périssent et on ne le donne pas. Alors, eh bien, je vous ai dit, il a prié. Hein. Dieu lui a donné la force. Hein. Et la fois suivante, hein, eh bien, il a ouvert la bouche. Et puis, il a commencé à présenter l'évangile, la bonne nouvelle. Et tout le monde était attentif, le regardait. Et à la fin, il a dit, écoutez, on n'a pas le droit de prendre, j'ai rien avec moi. Mais si quelqu'un veut une Bible, eh bien, je lui en offrirai une s'il le veut. Il a dit, il y en a un qui a dit, ben moi, je veux bien une Bible. Un autre a dit, ben, je veux bien vous laisser mon numéro de téléphone. Et voilà. On n'aurait pas pu s'y attendre. Hein? Mais il a ouvert la bouche. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Et peut-être qu'il y a des élus, vous savez, des personnes sensibles à côté de nous, mais on ne leur a pas dit. Est-ce que c'est un autre qui va leur dire? La deuxième chose que Élie a dit est celle-ci. Que l'on sache que je suis ton serviteur. C'est encore une prise de position, hein, et Dieu veut qu'on prenne position. On ne peut pas rester entre deux chaises comme ça sans jamais annoncer la couleur, sans jamais parler. Oui, nous sommes chrétiens, mais plus que ça, hein, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ça, c'est chrétien, croyant, hein, c'est très vague. Mais on appartient à Jésus, hein. On est né de nouveau. On aime Jésus. Où est notre zèle? Le Seigneur a bien dit dans les évangiles, il a dit dans Matthieu 10, 32, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et comment le confesse-t-on? On le confesse en prenant position devant les hommes. Dire que l'on croit en Jésus tout seul dans son coin, ben ça rime à rien. Par contre, dire que l'on croit à Jésus à cet inconnu, à cette commerçante ou à cet ensemble de personnes que l'on ne connaît pas forcément, hein, ça c'est confesser devant les hommes. Renier, c'est un mot très fort. Hein? Renier. Et je pense qu'ici, personne ne penserait à faire une chose pareille, renier Jésus-Christ. Mais pourtant, dans le texte hein, que Jésus nous donne en Matthieu, renier, c'est le contraire de confesser. Il dit celui qui me confesse ou celui qui me renie. Et parfois, on ne dit rien. Oh, on ne va pas le renier, non. Mais on ne va pas prendre position non plus. On ne va pas le confesser. Et on est là, hein, de nouveau entre les deux. Élie a dit, mais si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Le peuple ne répondit rien. Comme ça. Et parfois, on ne répond pas, on ne prend pas position. Et ce que Dieu veut, c'est que l'on sache que je suis un serviteur de l'Éternel. Il veut que chacun puisse dire « Je suis un serviteur de l'Éternel ». Et puis la troisième chose qu'il a dite, hein, c'est « Que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole ». Et il faut qu'on voit que nous sommes des hommes et des femmes de la Bible, attachés à la Bible. Nous agissons non selon notre propre parole, mais selon la parole de Dieu, en se conformant à la parole de Dieu. Parce que Dieu bénit et confirme celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Si Élie avait suivi ses propres inspirations, hein, ses propres envies, désirs, il n'aurait pas eu l'appui de Dieu. Mais parce qu'il était dépendant de Dieu, dépendant de sa parole, alors eh bien Dieu était là. Et lorsqu'il a prié, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Dieu entendait, Dieu exauça. Est-ce que nous sommes connus comme étant à l'écoute de la parole de Dieu, nous conformant à elle, suivant les Écritures? Parce que c'est là que Dieu agit. Et puis versets 38 et 39, il est dit, alors, « Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alors on peut appeler ça vraiment une conversion, hein. C'est même une conversion massive là, hein. Le peuple... Repentant, il revient à son Créateur. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont dû avoir peur aussi, hein. Alors oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, sans aucun doute. Mais l'homme a bien du mal à le comprendre d'une manière naturelle. Ça ne lui vient pas tout de suite, hein. Il faut d'abord qu'il expérimente qu'il y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention dans plein de domaines, pour qu'après, eh bien, il soit mûr, hein. Il faut qu'il s'épuise dans ses propres voies. Et puis après, eh bien, il faut qu'il entende un témoignage cohérent, clair, visible. Parce que même si, vous savez, je crois qu'il y en a qui s'épuisent, mais ils n'ont pas le témoignage, hein. Donc, où est la solution? Il faut qu'ils entendent un témoignage clair. Élie a pris position devant tous ses prophètes. Il s'est pas caché. Il voulait qu'on sache que l'Éternel, c'est le vrai Dieu, qu'il était son serviteur et qu'il agissait selon sa parole. Et là, eh bien, on avait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un miracle. Et il y a eu un miracle. C'est là que Dieu agit. C'est là qu'il ramène les cœurs et qu'il les sauve. Alors, simplement pour conclure... Élie n'était pas chrétien, comme nous le sommes, mais on a un exemple de quelqu'un à suivre. Alors, eh bien, qu'on puisse demander chaque matin de cette semaine le secours de Dieu pour que lui fasse ce dont nous sommes incapables. Dieu n'est pas déçu de vous ce matin. Mais il veut que vous soyez déçus de vous et que vous vous appuyez sur lui et qu'il le fasse en vous et en moi. Et ainsi, eh bien, Dieu seul sera glorifié. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci d'être celui qui pardonne nos faiblesses, nos manquements, nos péchés. Ô Dieu, merci pour le sang de Jésus qui nous couvre, qui nous lave, qui nous protège, qui nous rétablit, qui nous élève. Père, nous te bénissons, sommes reconnaissants pour ton Fils, pour son sacrifice et pour ce pardon. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants aussi parce que il y a un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Et tu veux que nous nous reposions de nos œuvres, que nous entrions dans tes œuvres et que nous comptions sur toi. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, à nous reposer sur toi, à t'invoquer et à espérer, Seigneur, que toi, tu agisses en nous. Père, nous te bénissons, nous te prions que tu nous aides à avoir plus de zèle. Seigneur, le zèle, non qui vient de la chair, Seigneur, de notre volonté seule, mais qui vient de toi, qui est reposé sur toi, qui prend sa source en toi. Seigneur, un zèle saint et qui glorifie Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, te prions que ces paroles nous aident cette semaine et que tu nous secours. Merci Seigneur, te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.